Le règne animal. Le nouveau film Événement de Thomas Caillet.
C'est une mutation, c'est un phénomène récent, complexe.
Un choc absolu pour le Parisien. Un coup d'éclat ahurissant pour Télérama. Absolument bluffant pour Première.
Il y a des survivants, j'en ai vu hier soir.
Romain Duris, Paul Kircher, Adèle Exarchopoulos. Le règne animal, actuellement au cinéma.
Travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Je veux peindre la France une mère affligée qui est entre ses bras de deux enfants chargés. Le plus fort, orgueilleux, empoigne les deux bouts des tétins nourriciers, puis à force de coups, d'ongles, de poings, de pieds, il brise le partage dont nature donnait à son jumeau l'usage.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. France, mère des arts, des armes et des lois, tu m'as nourri longtemps du lait de ta mamelle. Or, comme un agneau que sa nourrice appelle, je remplis de ton nom les antres et les bois. Si tu m'as pour enfant avoué quelquefois, que ne me réponds-tu maintenant, ô cruel ? Joachim du Bellay nous dit par ses vers fameux, qui remontent à 1558, qu'une telle formulation, qui porte la figure maternelle au plus haut de l'émotion individuelle et collective, en termes métaphoriques, est au cœur de très anciennes sensibilités. Mais c'est au cours du long XIXe siècle que cette figure s'est épanouie avec un éclat spécifique, et qu'elle a le plus à nous dire sur les pulsions collectives de décennie en décennie, de régime en régime, tel que la politique en a fait usage de multiples façons. Ce sera notre curiosité particulière ce matin, avec la collaboration de Brigitte Demeure, docteur de l'Université d'Avignon, qui s'est penchée sur ce thème et qui en démontre la richesse multiforme. En nous y promenant, elle analyse comment à des moments divers, la nature, la liberté, la nation, la République, l'Église, chacune à leur tour ou simultanément, ont investi et magnifié cette figure maternelle, non sans des intentions et des ressorts bien divers, depuis la Révolution, fille des Lumières, jusqu'à la Grande Guerre. Elles l'ont fait au service de récits et d'idéaux, souvent concurrents jusqu'à la violence, avec cependant un point commun, un contraste, entre la puissance de ces allégories féminines à vocation protectrice et une certaine dévalorisation générale des femmes réelles, même si les exceptions sont nombreuses dans la vie politique, sociale et culturelle de la France. Un contraste dont l'analyse devrait ouvrir la piste de quelques réflexions qui ne sont pas sans portée contemporaine.
Près de la nouvelle frontière, un officier s'est arrêté. À la porte d'une chaumière, il frappe avec anxiété. Une femme dont la mamelle allait un gentil chérubin, ouvrant, demandant qui m'appelle, et voit l'uniforme prussien. Femme, dit l'officier, écoute ma prière, pour lui donner ton lait, je t'apporte un enfant, dis-moi si tu consens à lui servir de mère, moi je suis un soldat du pays allemand. Ce fils sur la terre Lorraine, mais né d'hier et sans compter, je paierai tes soins et ta peine, car je suis tout seul à l'aimer. vois sa figure est rose et blonde. Tu peux le sauver du trépas. Sa mère, en le mettant au monde, vient de mourir entre mes bras. Femme, dit l'officier, écoute ma prière. Pour lui donner ton lait, je t'apporte un enfant. Dis-moi si tu consens à lui servir de mère. Moi, je suis un soldat du pays allemand. J'avais un fils, dit la Lorraine, blond chérubin comme le tien. Mon homme et moi tenions la plaine devant un régiment prussien. Quand tes soldats sous de carnage mirent le feu dans mon hameau, et sans pitié pour son jeune âge tuèrent l'enfant dans son berceau. Va, passe ton chemin, ma mamelle est française. N'entre pas sous mon toit, emporte ton enfant. Mes garçons chanteront plus tard la Marseillaise. Je ne vends pas mon lait au fils d'un Allemand.
Brigitte Demeure, bonjour.
Bonjour.
Je viens de vous proposer une chanson qui remonte à 1882, sur un ton très revanchard, 12 ans après la défaite de 70, Le fils de l'Allemand, qui est interprété ici par Christian Borel en 1963. Les paroles sont de Gaston Villemer et de Lucien Delormel, la musique de Paul Blétry. Il faut toujours rendre hommage à la diversité des auteurs d'une chanson que j'ai choisie, évidemment, vous pensez bien pourquoi. Ma mamelle est française. La France, c'est une des mères que nous allons rencontrer abondamment. Comment avez-vous eu l'idée de traiter un aussi beau sujet? Parce qu'on a beaucoup de choses sur la fraternité, l'histoire de la fraternité, nous en avons parlé souvent ici. La figure maternelle, non. Quel a été le déclic pour vous?
C'est en fait une réflexion sur le totalitarisme, suite à un séjour de plusieurs années en Allemagne, où j'avais constaté donc ce qui restait de la mentalité un petit peu nazie en Allemagne. Et puis, j'avais aussi voyagé un petit peu en RDA. Et c'était une réflexion qui m'avait porté des questions. Et suite à une discussion avec une analyste dont j'étais proche, il en était ressorti que la représentation maternelle avait une grande place dans cette mentalité.
En Allemagne.
En Allemagne. Et je voulais travailler sur cette question, mais pas sur l'Allemagne. Et je me suis dit, je vais essayer de travailler à partir de ce qui a pu se passer en France, et en particulier donc pendant la Révolution, avec la Terreur, et en ce qui concerne le nationalisme français.
Et il est vrai, on le constate en lisant votre beau livre, La figure maternelle dans la vie politique française de 89 à 14, de fait, on constate que c'est une manière originale, mais féconde, de parcourir la diversité, la succession des régimes de notre pays, effectivement, depuis la Grande Révolution jusqu'à la Grande Guerre. La Grande Guerre. Nous allons voir tout cela, bien sûr. La chanson que je vous ai proposée montre une figure maternelle qui incarne la France, la Lorraine aussi. Mais évidemment, il y a une très grande diversité d'utilisation de la figure maternelle au profit d'entités très différentes. Brigitte Demeure.
On retrouve effectivement cette figure maternelle sous toute forme. On peut partir de la patrie, de la France, de la nature, de la déesse Cérès, de la déesse Isis, jusqu'à Déméter, effectivement. Il y a Marianne, il y a la République. On retrouve aussi de façon très importante la figure de l'humanité dans la philosophie positiviste de Auguste Comte, qui est reprise donc à la fois par les théoriciens de l'extrême droite, Maurice Barrès et Charles Maurras, mais aussi, par exemple, des socialistes comme Jules Guesde, qui interprète cette figure maternelle associée à la communauté politique dans ses écrits.
Eh bien voilà déjà une table des matières de notre conversation, une description de ce que nous allons avoir à examiner de plus près pour démontrer à quel point cette figure maternelle a pu être plastique, à quel point elle a pu investir toutes sortes d'abstractions, non sans conséquences politiques, évidemment très concrètes et très importantes. Je voudrais revenir un peu en arrière, avec votre permission, avant la révolution sur laquelle nous allons insister, parce qu'évidemment la figure maternelle ne date pas de 1789. On peut remonter loin en arrière, et je vais vous le démontrer s'il en était besoin, en vous donnant à entendre un très beau poème d'Agrippa d'Aubigné. C'est tragique. « Je veux peindre la France, une mère affligée ». On est au moment des guerres de religion. Agrippa d'Aubigné est un auteur flamboyant du côté du protestantisme. Vous allez voir d'ailleurs que les deux frères ne sont pas traités de la même façon. Il y a Jacob et Ésaü, il y a un bon et un moins bon qui se déchirent et qui vont gâcher le lait de leur mère. Écoutons Agrippa d'Aubigné, Les Tragiques, c'est un poème qui est publié deux ou trois décennies après la fin des guerres de religion, en 1616, qui est lu ici par Lélie Envar sur France Culture, le 31 mai 2011. Je veux peindre la France, une mère affligée.
Je veux peindre la France, une mère affligée, qui est entre ses bras de deux enfants chargés. Le plus fort, orgueilleux, empoigne les deux bouts des tétins nourriciers, puis à force de coups, d'ongles, de poings, de pieds, il brise le partage dont nature donnait à son jumeau l'usage. Ce voleur acharné, cet Ésaü malheureux, fait dégât du doux lait qui doit nourrir les deux. Si que pour arracher à son frère la vie, il méprise la sienne et n'en a plus envie. Mais son Jacob, pressé d'avoir jeûné ici, ayant dompté longtemps en son cœur son ennui, à la fin se défend, et sa juste colère rend à l'autre un combat dont le champ est la mer. Ni les soupirs ardents, les pitoyables cris, ni les pleurs réchauffés ne calment leurs esprits. Mais leur rage les guide et leur poison les trouble, si bien que leur courroux par leurs coups se redouble. Leur conflit se rallume et fait si furieux que d'un gauche malheur ils se crèvent les yeux. Cette femme est pleurée, en sa douleur plus forte, succombe à la douleur mi-vivante, mi-morte. Elle voit les mutins tout déchirés, sanglants, qui ainsi que du cœur des mains se vont cherchant, qu'en pressant à son sein d'une amour maternelle, celui qui a le droit et la juste querelle, elle veut le sauver, l'autre, qui n'est pas là, viole en poursuivant l'asile de ses bras. A donc ce père le lait, le suc de sa poitrine. Puis, aux derniers abois de sa proche ruine, elle dit « Vous avez, félon, ensanglanté le sein qui vous nourrit et qui vous a porté. Or vivez de venin, sanglante géniture, je n'ai plus que du sang pour votre nourriture. »
Brigitte demeure, le plus souvent la figure maternelle dont vous parlez pour tout le 19e siècle, est une figure qui unifie. Ici, au contraire, elle doit constater ce qui déchire ses descendants. Cette figure, d'ailleurs, continue d'être évoquée au XVIIe siècle. Je pense à Bossuet.
Tout à fait. Pour Bossuet, il faut nourrir le peuple au lait de la doctrine catholique. Et la doctrine catholique, donc, c'est la mère première qu'il associe aussi à la France, à la patrie. Et toutes les écrits de Bossuet seront importants non seulement à son époque, mais bien après, jusqu'à la fin quasiment du 19e siècle.
Le lait toujours.
Le lait toujours, le lait de la doctrine catholique.
Venons-en à votre chère révolution. Effectivement, surgit avec une grande force et s'impose l'image de la figure maternelle.
Donc, ça se passe, la figure maternelle est déjà présente avant la Révolution et pendant les États généraux. Avant la Révolution, le langage de la patrie et du patriotisme fait partie d'une rhétorique très, très, très commune. Et les hommes de lettres et les parlementaires essayent de se référer donc à une communauté imaginée et à une patrie formée de citoyens vertueux qui cherchent le bien public. Mais cette patrie, dans ce contexte-là, elle est assez passive. Ce sont les fils de cette patrie qui doivent l'aider à trouver ce bien public et à parvenir à la bienfaisance générale.
Mais vous avez repéré déjà toute une série, toute une litanie de textes qui font allusion à la mère, qui associe la mère à la patrie. Je vois par exemple Rabaud Saint-Étienne,
oui,
le protestant, qui dit que l'éducation nationale est la mère commune de tous les citoyens, qui leur donne à tous le même lait, qui les élève et les traite en frères, et qui, par la communauté de ses soins, leur donne cet air de ressemblance et de famille qui distingue un peuple ainsi élevé de tous les autres peuples de la terre. Fin de citation.
Tout à fait, oui, oui. C'est donc en pleine révolution, quand il s'agit de convaincre la population des bienfaits de la révolution et de tous les bouleversements qui se mettent en place.
Du côté des Girondins aussi, Condorcet et les autres, ils font également appel largement à cette métaphore.
Pour Condorcet, effectivement, la nature, c'est une référence première. Il l'utilise moins comme métaphore, mais c'est une référence première. Et pour lui, c'est surtout la raison. La raison qui doit parvenir à décrypter les lois de la nature. Et il essaye d'éviter d'avoir recours à l'imaginaire, parce que pour lui, l'imaginaire, c'est le piège. C'est le piège de la séduction qui peut aboutir à l'effet inverse des efforts des révolutionnaires pour une société plus juste.
Oui, et on retrouve toujours la nature, qui est, pour Robespierre et pour Saint-Just, c'est une entité bienveillante et par conséquent mère et terre nourricière. On appartient à sa mère jusqu'à l'âge de 5 ans, concrètement et métaphoriquement toute sa vie, et ensuite à la République jusqu'à la mort, dit Saint-Just. Du berceau à la tombe, l'individu ne doit jamais sortir du giron, soit de la mère, soit de la mère patrie. C'est utopique.
C'est ce que dit Saint-Just. Et c'est ce qui est effectivement, donc cette référence à la nature, elle parcourt toute la Révolution, et en particulier, elle est exaltée au moment de la fête du 10 août 1793.
Premier anniversaire de la chute de la royauté.
Voilà, et qui doit célébrer la nouvelle constitution. Cette fête est organisée en stations, comme les fêtes antiques, les processions catholiques, ou bien le calvaire du Christ et les initiations maçonniques. Mais surtout, sur les décombres de la Bastille est érigée une fontaine de la régénération qui est représentée par la nature. Et cette nature, elle est figurée par la déesse Isis. Sachant que la déesse Isis, elle représente la nature. La déesse Isis est révérée en France depuis l'Antiquité. C'est arrivé d'Égypte. Il y a toute une tradition ésotérique qui se réfère à Isis.
La franc-maçonnerie apprécie beaucoup Isis.
La franc-maçonnerie, effectivement, en particulier avec Cagliostro. Cagliostro, qui est franc-maçon, qui a mis en place une loge qui se réfère à Isis et qui a pour but la régénération de la société, a beaucoup influencé, effectivement, aussi Nicolas de Bonneville, qui a créé avec l'abbé Fouché le cercle social, qui est un club révolutionnaire qui est très, très important au début de la Révolution. Il a jusqu'à 5 ou 6 000 membres. Isis représente la nature, mais cette nature a pour horizon l'universalité des droits humains. C'est ça qui est très important. C'est cette universalité des droits humains qui fait que tous les hommes sont frères dans la nature. Et plus tard, après Thermidor, on parlera plus d'Isis, mais on parlera de la déesse Déméter ou Cérès, puisque les Thermidoriens affirmeront que la déesse de la nature est devenue Cérès, la déesse des propriétaires.
Qui remonte évidemment à l'Antiquité romaine.
Exact. L'Antiquité romaine, c'est la déesse de l'agriculture. Il n'y a plus aucune référence à ce que les sans-culottes prônaient à l'époque.
Oui, quand David encore disait, toujours à propos de la scène qu'il avait prévue pour la fête du 10 août 93, de ses mamelles qu'elle pressait de ses mains, s'épanchaient dans un vaste bassin deux sources d'une eau pure et abondante, image de son inépuisable fécondité. Régénération, fécondité. Vous trouvez cela tout au long de votre chemin, Brigitte Demeure.
C'est un thème qui est extrêmement important, même avant la Révolution. C'est avant la Révolution et juste au moment des États généraux, puisqu'il s'agit de régénérer la patrie, la France. Et après la Révolution, on parle simplement de la régénération, c'est-à-dire la régénération qui est un terme qui vient en fait du catholicisme. Et là, ça devient un terme qui se rapporte à la société. Pour les révolutionnaires et entre autres Rabaut, Saint-Étienne, l'histoire n'est pas notre code. Les révolutionnaires veulent effacer l'histoire royale, etc.
Mais c'est un mot fameux qu'il prononce effectivement devant ses collègues députés qui avaient tendance sans cesse à se référer à l'Antiquité romaine. Vous le démontrez à propos de l'évocation de Cybèle et de Déméter.
Mais aussi à une certaine vision de la société qui datait de l'Ancien Régime. Puisque, par exemple, pour Boulainvilliers, il existe deux races d'hommes dans ce pays, c'est-à-dire ceux qui ont conquis la France, les Francs, et ceux qui ont perdu vis-à-vis des Francs, qui sont les Gaulois. Et pour lui, donc, il y a les Francs qui correspondent à la noblesse et les Gaulois qui sont devenus le tiers-État, sachant que la supériorité des Francs, selon lui, se serait transmise par le sang.
Grâce au texte que vous exhumez, on est aussi conduit à considérer cette opposition entre l'hommage rendu toujours à la vision maternelle et la manière dont on traite les femmes. Chaumette, déjà cité, écrivait à ce propos « La nature dit à la femme, sois femme. Les tendres soins dus à l'enfance, les douces inquiétudes de la maternité, voilà tes travaux. Mais les occupations assidues méritent une récompense, eh bien tu l'auras. Tu seras la divinité du sanctuaire domestique. Tu régneras sur tout ce qui t'entoure par le charme invincible des grâces et de la vertu. » C'est pour justifier l'interdiction faite aux femmes de l'entrée dans les assemblées politiques. On a toujours cette concomitance sur laquelle, dans votre livre, vous insistez à bon escient, entre l'hommage rendu à la femme comme symbole et le maintien de celle-ci au quotidien dans une situation subordonnée. C'est bien cela ?
Et ce qui est étonnant, parce que les femmes, pendant la Révolution, étaient en fait très actives. Au mois d'octobre 1789, c'est bien elles qui ont eu l'initiative de demander au roi et à sa famille de revenir à Paris.
Mais ce propos de Chaumette date de l'interdiction faite aux femmes de l'entrée dans les assemblées politiques au printemps 1794.
Les femmes ont été très actives, on le voit en octobre 1789, quand elles forcent la famille royale à rentrer à Paris.
Depuis Versailles,
mais aussi après dans les clubs auxquels elles prenaient part. Et c'est en 1793 que Robespierre décide de leur interdire la participation à la vie publique, déjà en 1793.
Alors, il faut que nous avancions pour voir comment, quels sont les formes que va prendre cette figure maternelle à mesure que nous entrons dans le 19e siècle. Il faut en venir à Napoléon, qui s'affirme comme le premier de tous les fils de France. Et on passe de l'allégorie de la nature aux métaphores maternelles de la patrie. Ça existait déjà sous la Révolution. Mais enfin, ça s'affirme. Et de cela, vous témoignez par des textes nombreux.
Au fur et à mesure de son parcours politique, Napoléon s'aperçoit ou a conscience de l'importance de la religion comme appui pour faire respecter ses décisions. Et il a en particulier des difficultés à contraindre les populations au paiement de l'impôt et puis à la conscription et au maintien de l'ordre. Et pour lui, il n'y a que la religion qui donne à l'État un appui ferme.
Donc il retrouve la tradition de l'Église comme maternelle aussi.
Tout à fait, de l'Église comme une mère.
En sautant par-dessus la Révolution, c'est ça que vous nous dites.
Voilà, et surtout, Napoléon est né le 15 août. Et il utilise le fait qu'il soit né le 15 août pour se référer à l'Assomption de la Vierge. Donc il devient en fait très proche de la représentation maternelle de la Vierge. Et il demande à l'Église de lui fabriquer un Saint Napoléon qui serait né le 15 août. Donc on a Napoléon né le 15 août, la fête de la Vierge. Ça correspond aussi à effectivement la déesse Cérès, puisque c'est le moment de la récolte des céréales. avec son anniversaire, qui a lieu le 15 août, qui est associé à la Saint-Napoléon, qui est fabriquée à sa demande par l'Église.
Voilà que la Vierge Marie, effectivement, est la nouvelle incarnation de la figure maternelle.
À la Sainte Vierge, il associe Isis, à nouveau.
Elle ressurgit
parce que, donc, il y a son voyage en Égypte, qui a été très important pour lui.
Juste un voyage, une guerre.
Une guerre et un voyage et une aventure. Et donc, il va associer la déesse Isis, sachant que la nef de Paris, qui orne le sceau et le blason de la ville au moins depuis le XIVe siècle, est le même que la nef d'Isis. Donc, il demande à ce que la déesse Isis soit portée sur le blason de la capitale.
On voit donc arriver la Sainte Vierge et par là, il peut y avoir un glissement du côté des opposants de la Révolution. Je pense à un auteur aussi important et influent que le vicomte de Bonald, auquel vous consacrez des pages tout à fait intéressantes. Donc, c'est une tradition qui va continuer du côté des ultras sous la Restauration, jusqu'à Charles Maurras, jusqu'à l'Action française. On trouve dans ces ouvrages plusieurs allégories maternelles, la nature, la monarchie et la République, mais la République comme une marâtre.
Une marâtre et un repoussoir. En fait, Bonald utilise aussi les figures maternelles dans ses discours et dans ses écrits, et il associe la nature et la monarchie. La nature sait que l'homme n'est pas bon, et elle sait que pour que le peuple soit heureux, il ne doit pas détenir le pouvoir, et c'est la monarchie qui doit détenir le pouvoir, parce que c'est la monarchie qui sait ce qui est bon pour le peuple.
Donc deux entités allégoriques maternelles qui sont alliées, qui l'opposent à une troisième allégorie qui est également maternelle, qui est la République, et qu'il déteste. La République est un gouvernement contre nature.
La République est un gouvernement contre nature, et c'est exactement ce qu'il explique. Et comme vous le disiez si bien, c'est l'ultra de la Restauration et il a une influence. Les écrits de Bonald auront une influence jusqu'à Maurras et jusqu'à l'Action française.
Je voudrais maintenant que nous disions un mot de Marianne. Marianne, parce que c'est aussi une incarnation. À partir notamment de 1848, Marianne, chère à Maurice Agulon, qui a beaucoup travaillé sur cette figuration de la République, qui remonte en fait à l'époque de la Révolution, du côté du Tarn, mais qui a encore une influence assez limitée, qui prend vraiment tout son essor en 48. Je crois qu'il faut, en hommage à Agulon, lui donner la parole. Je l'avais invité dans Concordance des temps le 2 décembre 1999, et il parle ici de l'allégorie de la République, ce qui prépare une réflexion sur, une fois la Restauration dépassée et la monarchie de Juillet tombée, conduira à la Révolution de 48. Écoutons Maurice Agulon.
Pourquoi représenter allégoriquement la République, la liberté, la justice, la science, la Loire, la Garonne, la France, l'Allemagne? Pourquoi? C'est un problème qui dépasse les historiens du contemporain. C'est un grand fait anthropologique européen. Cela dit, à partir du moment où on est en République et où on estime que l'État ne doit pas seulement faire des lois, mais se faire voir, se faire représenter, ce qui est important tout de même pour les gens simples, il faut une allégorie de la République. Alors la décision prise quelques jours après la proclamation de la République, c'était évidemment, puisqu'on avait changé de régime, de changer d'image et d'emprunter pour représenter la République, la vieille allégorie de la liberté, c'est-à-dire une femme, puisque au féminin c'est toujours une femme qu'il peut s'agir, et une femme avec un bonnet phrygien. C'est l'origine de toute cette histoire, mais c'est l'origine aussi pour les artistes, pour les peintres, les sculpteurs, les graveurs, les caricaturistes, d'une séquence extrêmement compliquée, parce que la femme à bonnet phrygien représente tantôt la liberté et tantôt la République par une convention récente. C'est une histoire d'évolution. Et puis, on est arrivé insensiblement, inconsciemment presque, du fait même de la victoire du régime républicain dans notre pays, à l'identification à la France. La femme à bonnet phrygien, autrefois, c'était surtout la République et une affaire de politique intérieure. Depuis que la République a gagné, c'est plutôt la République par opposition ou par différence avec les autres nations.
Voilà une belle démonstration, Brigitte Demeure, de la plasticité de cette figure maternelle. Et je voudrais qu'on s'attarde un instant. Marianne, c'est essentiel, non ?
Oui, Marianne, c'est essentiel. C'est une figure maternelle qui est reprise, qui est très importante pour les révolutionnaires qui sont persécutés pendant la Restauration, dans les associations qui sont un petit peu clandestines. Marianne est mise en valeur. Et en 1848, et après 1848, à partir de 1852, quand les révolutionnaires sont en exil pour la plupart ou en prison, Marianne devient une figure très importante et pour certains, elle doit devenir comme Alcmène. C'est la mère d'Hercule et que Zeus avait choisi car elle était la femme la plus belle et la plus sage. Et donc Marianne est associée à Alcmène et Marianne élève comme Alcmène son fils Héro. Elle le fortifie, elle la guérit jusqu'à ce qu'il prenne assez de force pour pouvoir renverser donc le Second Empire.
Toujours, on puise dans l'Antiquité.
On puise dans l'Antiquité.
Dans le répertoire magnifique de l'Antiquité gréco-romaine.
À cette époque-là, oui.
Du côté du Saint-Simonisme, de l'école saint-simonienne, avec ensuite Bazard et surtout le père enfantin, on retrouve aussi un attachement à l'idée de la mère qui est importante.
Tout à fait. Alors là, pour Saint-Simon, puisque c'est de lui dont on parle d'abord, les enfants de la patrie deviennent les enfants de l'industrie. Et il imagine une variation de la Marseillaise en disant à l'enfant de l'industrie. Et il élabore une théorie sociétale dans laquelle la production agricole et industrielle est centrale, sachant que ce sont les industriels qui doivent organiser la société. C'est une société hiérarchique, il n'y a pas d'égalité. Mais pour parvenir à faire adhérer la population à cette théorie, il faut passer par la religion. Et la religion des Saint-Simoniens, c'est la religion de la mère. Et cette religion, je me pose la question de savoir s'ils y croyaient ou pas. C'est-à-dire qu'ils font des tournées dans toute la France pour essayer de convaincre les ouvriers de cette religion, de cette mère, qui est aussi une mère fantasmée qui doit associer l'Occident à l'Orient. Et d'ailleurs, en 1833, il publie un opuscule qui s'appelle « L'année de la mère ». Et peu après, ils partent, donc toute l'équipe avec Enfantin, partent en Orient chercher la mère.
C'est après la mort de Saint-Simon qui a disparu en 1825.
Oui. C'est après sa mort. Et bon, évidemment, ils n'ont pas trouvé la mère en Orient, mais ils ont trouvé plein d'idées. Et c'est eux qui sont à l'initiative, on peut dire, par exemple, du canal de Suez. Et ils seront très importants dans la révolution industrielle. Ils auront une action très importante sous le Second Empire, en particulier Michel Chevalier, qui devient un des ministres de Napoléon III.
Oui, en somme, ça c'est nouveau, c'est-à-dire que désormais la mer, c'est l'industrie.
C'est un changement de paradigme total par rapport à ce qui se passait pendant la Révolution, puisque pendant la Révolution, c'était une image magnifiée de la nature, et là, c'est une image de l'industrie très pratique, mais qui est toujours en relation avec les lois naturelles qu'il faut découvrir pour pouvoir les appliquer à l'organisation de la société.
Qui les domine.
C'est ça.
Et alors, parlez-nous d'Auguste Comte, ceux qui passent par Paris, ou qui sont parisiens, parmi nos auditeurs, nos auditrices, connaissent la statue d'Auguste Comte qui est juste devant la Sorbonne. On l'a d'ailleurs déplacée récemment, elle était au centre, maintenant elle est de côté. C'est une statue d'un Jalbert qui remonte à 1902. Et il y a à droite du personnage, une sorte de mater dolorosa qui porte un enfant dans ses bras. C'est toujours le thème de la pietà aussi qu'on retrouve dans le temps de paix, mais surtout dans le temps de guerre.
La métaphore et l'allégorie maternelle est essentielle pour Auguste Comte, puisqu'il crée dans les années 1840 une religion de l'humanité. Et cette humanité, elle est représentée par une femme qui porte un enfant. Pour Auguste Comte, la valeur principale dans la société, c'est l'altruisme. Et l'altruisme est propre d'abord aux femmes, puisque c'est elle qui élève les enfants. Et cette humanité se réfère donc à toute l'humanité passée, puisqu'on doit tout à ceux qui nous ont élevés, on doit tout à notre culture relève du passé. Et c'est aussi donc un idéal, mais il y a une chose particulière à cette théorie d'Auguste Comte, c'est que cette humanité ne comprend pas tous les êtres humains. Parce que dans l'humanité, il y a aussi des parasites. Et ces parasites, en fait, doivent terminer comme du fumier. Donc c'est un problème. Enfin,
ils ne dépendent pas d'une mère alors quelconque ?
Si, ils ont été élevés, mais ils restent à l'état de parasite dans lequel ils étaient quand ils étaient petits. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dépendants et ils ne font rien pour les autres. C'est-à-dire que c'est les autres qui doivent toujours contribuer à leur vie, à leur éducation. Et en plus, ils ne parviennent pas au stade imaginé par Auguste Comte, puisque pour Auguste Comte, l'être humain doit passer de l'attachement à sa mère, à l'attachement à la mère patrie, pour finir à l'attachement à l'humanité. Et ces parasites, ils en restent au tout début, même s'ils sont adultes. Et cette théorie donc ce clivage de l'humanité va être repris ensuite par l'extrême droite. Il imagine aussi une vierge mère, c'est-à-dire pour lui, la procréation ne doit plus passer par la sexualité, puisque pour lui, la sexualité, c'est le plus perturbateur de nos instincts, donc il voudrait le supprimer. Et il vénère à la fois...
Il veut supprimer la sexualité ?
Oui.
Mais c'est un vaste programme.
Oui, c'est un vaste programme. Il existe un clivage pour lui. Il veut essayer d'amoindrir ce qui correspond à ce qu'il considère comme de l'égoïsme et supprimer cet instinct sexuel qui est très perturbateur.
Donc plus de mère ? Si.
Si, mais c'est les femmes qui procréent sans avoir besoin des hommes.
Allons bon. Eh bien. Alors je voudrais qu'on dise un mot aussi du romantisme politique, parce qu'on s'est beaucoup préoccupé de ce côté-là de l'image de la mère, ce qu'elle pouvait signifier. Je pense à Michelet, par exemple, toute son histoire de la Révolution, ses ouvrages, La Femme, 1860, La Bible de l'humanité, en 64, il évoque Isis, votre chère Isis, et il a la même exclamation émerveillée dans ses ouvrages, le grand Dieu, c'est une mère, le grand Dieu, c'est une mère. Et il adresse cette prière à la patrie, qui, je crois, est tout à fait représentative, topique. France, dit-il, glorieuse mère, qui n'est pas seulement la nôtre, mais qui devait enfanter toute nation à la liberté, faites que nous aimions en vous. Si ta mère ne peut te nourrir, si ton père, tiens voilà quand même le père, si ton père te maltraite, si tu es nu, si tu as faim, viens mon fils. Les portes sont toutes grandes ouvertes et la France est au seuil pour t'embrasser et pour te recevoir. Elle ne rougira jamais, cette grande mère, de prendre pour toi les soins de la nourrice, toujours le lait. Les soins de la nourrice, elle fera de sa main héroïque la soupe du soldat, et si elle n'avait pas de quoi envelopper, réchauffer tes petits membres engourdis, elle arracherait plutôt un pan de son drapeau. Ah, voilà la patrie qui arrive, et c'était un extrait de Michelet, Le Peuple. Donc, chez lui, chez Victor Hugo aussi, la France est associée aux valeurs de gloire et de liberté, deux valeurs évidemment dynamiques, sœurs, et fille de la France, une mère puissante, mais sereine et paisible.
Sereine et paisible, et associée aussi à la justice. Parce que pour Michelet, donc, il existe différentes entités maternelles, différentes déesses, mères, et en particulier la justice. Il invente des déesses, des providences, qui font couler le flot de la justice au cours de l'histoire. Pour lui, l'histoire, c'est l'avènement de la justice, entre autres. Cette justice qui est portée, qui est enfantée par cette providence maternelle, d'une part, et d'autre part, donc, on a aussi l'histoire de la France, parce que c'est la première fois dans l'histoire française que quelqu'un montre la France en tant que personne. en tant que personne. Pour lui, la France est une personne, ce qu'on ne retrouvait pas auparavant au niveau de l'histoire.
De la Révolution, on n'était pas allé jusque-là.
N'était pas une personne au niveau du cours de l'histoire.
Mais symboliquement, c'était quand même une mère.
Oui.
Donc, nous parlons de Michelet, évidemment, ça s'impose. Victor Hugo doit figurer dans notre émission, Brigitte Demeure. Je citerai au moins deux de ses poèmes. Un que vous reprenez dans votre livre, qui est intéressant parce qu'il se demande si la mère nature ne serait pas une marâtre. Dans un premier temps, c'est un extrait des Châtiments, la grande œuvre de l'exil. Il écrit « Par moments, à te voir, parmi les trahisons menées paisiblement les mois et les saisons, à te voir impassible et froide, quoi qu'on fasse, pour qui ne creuse point plus bas que la surface, tu sembles bien glacé, et l'on s'étonne un peu. La nature devient une mer glacée. » Mais il se reprend après, et il dit « Erreur, 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 ô géante, ô centieux, tu fais un grand labeur, saint et mystérieux, aucun autre que moi te blasphème, ô nature. »
Et on retrouve à nouveau la notion de loi naturelle qu'il s'agit de décrypter, puisque la nature a écrit un livre avec ses lois et il faut arriver à les décrypter.
Décidément, parmi les incarnations que vous relevez, ces figures maternelles, la nature continuellement joue un rôle essentiel.
Mais jusqu'à l'Action française.
Jusqu'à
Maurras.
Jusqu'à Maurras. Sur le Second Empire, que dire sur la manière dont la figure maternelle peut continuer de figurer sous le règne de Napoléon III?
Je pense qu'il est difficile d'imaginer que Napoléon III aurait pu asseoir son autorité sans la référence à la Vierge Marie. Sans la référence à la Vierge Marie, sachant que pour lui, le 15 août redevient la fête nationale, puisqu'il se réfère à son oncle. Il faut se rappeler que le dogme de l'Immaculée Conception est promulgué en 1854. Et je rappelle, par exemple, un pèlerinage qui a lieu en 1858 en Bretagne, où, avec une mise en scène qui exalte à la fois, si vous voulez, la Vierge, Anne, sa mère, et puis Eugénie qui fait une figure qui est associée à la charité, et donc l'image de l'empereur est inséparable de l'impératrice, de son fils, de Marie, d'Anne et d'Eugénie. Donc il figure, il renvoie en miroir, si vous voulez, l'image de la Sainte Famille et de la mère idéale.
Eugénie Montijo, la femme donc de Napoléon III, l'épouse, a investi cette figure maternelle
et de la charité.
C'est la première fois, non?
Oui, c'est la première fois effectivement qu'une impératrice en chair et en os et qu'une femme en chair et en os représente quelque chose de positif.
La guerre de 70, ce traumatisme formidable pour la France, évidemment, va redonner un élan à la figure maternelle comme assimilée à la patrie. Nous l'avons vu avec la chanson tout à l'heure de la Lorraine qui refusait sa mamelle au fils de l'Allemand. On pourrait aussi citer, là encore, Victor Hugo. Il y a un très beau poème que je vais vous lire, car il me paraît assez représentatif de cette mutation. C'est pas neuf, mais désormais, à cause de cet effondrement de l'Empire devant le Prussien, évidemment, la patrie prend une importance plus grande comme assimilée à la figure maternelle. Voilà Victor Hugo. « Puisque ses ennemis, hier encore nos hôtes, sont chez nous, j'irai, je me mettrai, France, devant tes fautes, à genoux. » J'insulterai leurs chants, leurs aigles noirs, leurs serres, leurs défis. Je te demanderai ma part de tes misères, moi ton fils, moi ton fils. Farouche, vénérant sous leurs affronts infâmes tes malheurs, je baiserai tes pieds, France, l'œil plein de flammes et de pleurs. France, tu verras bien qu'humble tête éclipsée, j'avais foi, et que je n'eus jamais dans l'âme une pensée que pour toi. Tu me permettras d'être, en sortant des ténèbres, ton enfant, et tandis que rira ce tas d'hommes funèbres, triomphant, ce sont les Prussiens évidemment, tu ne trouveras pas mauvais que je t'adore en priant, ébloui par ton front invincible que dort l'Orient. Car aujourd'hui qu'arrive avec sa sombre foule Attila, aujourd'hui que le monde autour de toi s'écroule, me voilà. France, être sur ta claie à l'heure où l'on te traîne aux cheveux, ô ma mère, et porter mon anneau de ta chaîne, je le veux. J'accours, puisque sur toi la bombe et la mitraille ont craché. Tu me regarderas debout sur ta muraille ou couché, et peut-être, en la terre où brille l'espérance, pur flambeau, pour prix de mon exil, tu m'accorderas, France, un tombeau. C'est daté de Bruxelles, retour vers la France, 31 août 1870. Cette fois-ci, il n'y a plus de doute. La figure maternelle, c'est la France, c'est la patrie.
C'est la patrie. Et n'oublions pas qu'au funérailles de Victor Hugo, ce sont des centaines de milliers de personnes qui se sont précipitées dans les rues de Paris pour suivre son catafalque. L'identification à la patrie après la défaite contre les Prussiens a été très intense. Et la poésie de Victor Hugo correspond tout à fait à l'état d'esprit des Français à cette époque.
Il faut dire aussi un mot de la Commune, et par exemple de Louise Michel, qui n'est pas elle-même sans s'attacher à cette évocation de la figure maternelle.
Pour Louise Michel et pour les communards, puisqu'on les appelle comme ça, la République fait penser à la Commune de la Révolution. Et pour elle, donc, elle l'explique comme ça, « La République universelle se lève dans les cieux ardents, couvrant les peuples de son aile, comme une mère, ses enfants. » C'est très beau et voilà, elle l'oppose à l'ancienne société qui est considérée comme une marâtre.
Et puis après la Commune arrive la Troisième République avec les efforts de tous ceux qui réussissent à l'enraciner, en particulier dans cette France paysanne qui était jusque-là assez réticente. Et au premier chef, il faut inscrire Gambetta qui a trouvé sa gloire dans la guerre elle-même et qui ensuite se fait le commis-voyageur, comme il le dit, de la République. Quelle place à l'image maternelle dans l'éloquence de Gambetta?
Elle a une place centrale. Dès la défaite, il se présente lui-même comme le fils de la patrie. C'est-à-dire, c'est au nom de la patrie qu'il s'exprime et qu'il essaye d'engager tous les Français dans la lutte contre l'envahisseur. Et dans ses déplacements, puisque ça c'est très nouveau, toute cette campagne électorale dans toute la France, il présente la France comme une mère émancipatrice et qui est la championne de la justice et de l'émancipation par l'éducation.
Et après sa mort, Jules Ferry observe à propos de Gambetta que l'amour de la France fut la passion maîtresse, la flamme incomparable de ce cœur débordant. C'est peu de dire qu'il l'aime comme un enfant aime sa mère. Il l'aimait éperdument, absolument, il l'aimait par-dessus toute chose. En réalité, il n'aimait qu'elle au monde. Voilà une mère qui occupe tout l'espace.
Et on retrouve cette rhétorique lors d'autres enterrements de personnages politiques.
C'est aussi le temps où cette allégorie pénètre l'enseignement républicain. Je songe en particulier à cet immense succès, des millions et des millions d'exemplaires qu'a trouvé le fameux livre de Madame Fouillé qui s'appelait « Le Tour de France des deux enfants ». Le signe G. Bruno, c'est probablement un hommage à Giordano Bruno qui était la victime de l'intolérance catholique, comme nous savons, en Italie au début du XVIIe siècle, qui a été brûlé au tout début du XVIIe siècle par l'intolérance religieuse. C'est pour ça probablement qu'elle a signé G. Bruno. C'était la femme d'un professeur de philosophie à la Sorbonne. Le Tour de France des deux enfants. Il faut que je vous en fasse écouter un extrait, le tout début en fait, qui explique pourquoi le père mourant a souhaité en fait placer ces deux petits garçons qui vont commencer à faire ce Tour de France sous les auspices de la France conçue comme maternelle.
On se trouvait alors en 1871, peu de temps après la dernière guerre avec la Prusse. À la suite de cette guerre, l'Alsace et une partie de la Lorraine, y compris la ville de Falsbourg, étaient devenues allemandes. Les habitants qui voulaient rester français étaient obligés de quitter leur ville natale pour aller s'établir dans la vieille France. Le père d'André et de Julien, un brave charpentier, veuf de bonheur, qui avait élevé ses fils dans l'amour de la patrie, songea comme tant d'autres Alsaciens et Lorrains à émigrer en France. Il tâcha donc de réunir quelques économies pour les frais du voyage et il se mit à travailler avec plus d'ardeur que jamais. André, de son côté, travaillait courageusement en apprentissage chez un serrurier. Tout était prêt pour le voyage. L'époque même du départ était fixée. Lorsqu'un jour le charpentier vint à tomber d'un échafaudage, on le rapporta mourant chez lui. Pendant que les voisins couraient chercher du secours, les deux frères restèrent seuls auprès du lit où leur père demeurait immobile comme un cadavre. Le petit Julien avait pris dans sa main la main du mourant et il la baisait doucement en répétant à travers ses larmes de sa voix la plus tendre « Père, Père ». Comme si cette voix si chère avait réveillé chez le blessé ce qui lui restait de vie, Michel Wolden tressaillit. Il essaya de parler, mais ce fut en vain. Ses lèvres remuèrent sans qu'un mot pût sortir de sa bouche. Alors une vive anxiété se peignit sur ses traits. Il sembla réfléchir comme s'il cherchait avec angoisse le moyen de faire comprendre à ses deux enfants ses derniers désirs. Puis, après quelques instants, il fit un effort suprême et, soulevant la petite main caressante de Julien, il la posa dans celle de son frère aîné. Épuisé par cet effort, il regarda longuement ses deux fils d'une façon expressive et son regard profond et ses yeux tristes semblaient vouloir leur dire « Aimez-vous l'un l'autre, pauvres enfants qui allez désormais rester seuls. » André comprit le regard paternel, il se pencha vers le mourant. « Père, répondit-il, j'élèverai Julien et je veillerai sur lui, comme vous l'eussiez fait vous-même. » André le voyait, inquiet, et il cherchait à deviner. Il se pencha jusqu'auprès des lèvres du moribond, l'interrogeant du regard. Un mot plus léger qu'un souffle arriva à l'oreille d'André. « France. Oh !» s'écria le fils aîné avec élan. « Soyez tranquille, cher père. Je vous promets que nous demeurerons les enfants de la France. Nous quitterons Falsbourg pour aller là-bas. Nous resterons français, quelque peine qu'il faille souffrir pour cela. » Un soupir de soulagement s'échappa des lèvres paternelles.
Nous entendons les premières mesures de la victoire en chantant, ce qui renvoie d'ailleurs aussi à la Marseillaise, nous ne l'avons pas signalé, à Allons enfants de la patrie, c'était déjà une allusion à la patrie comme maternelle. C'est évidemment quelque chose qui prend à peu près tout l'espace sous ces années de la Troisième République commençante. Je pense à l'enseignement en particulier, je pense à la grande figure de Ferdinand Buisson, l'auteur du dictionnaire de pédagogie, qui est protestant et qui, au fond, rejoint un peu, par-delà les siècles, cette Agrippa d'Aubigné que nous entendions tout à l'heure, magnifique poète.
Oui, rappelons que Jules Ferry est secondé par Buisson, qui devient inspecteur général et directeur de l'enseignement primaire en 1879. Et la patrie de Buisson, dans ses manuels, elle demande à ses enfants de s'aimer mutuellement. Donc, c'est important de se rappeler que Buisson était protestant, un protestant libéral, voire d'extrême gauche. Même s'il n'y a pas de figure maternelle dans la religion protestante, la patrie reste une figure maternelle importante pour les protestants. Et Buisson se réfère à Michelet. Il souligne la nécessité effectivement de la fraternité universelle et surtout il rappelle qu'il n'y a pas deux France, il n'y a pas deux peuples dans la France, tout le monde et tous les Français sont égaux, ils sont tous frères.
Il n'y a qu'une mère.
Il n'y a qu'une mère et il faut le mettre peut-être en relation avec les ouvrages qui ont été écrits par Paul Bert au même moment et pour qui Paul Bert, il y a deux France.
C'est un autre ministre de l'éducation, de l'instruction publique avant Jules Ferry, Paul Bert. Oui, effectivement, qui lui voit la France comme divisée entre les républicains et les autres. Non, dit Buisson, unissons-nous, c'est ça?
C'est ce que dit Buisson. Il répond en fait à Paul Bert pour qui il y a deux France.
Tous égaux et demain, quoi qu'on fasse, tous frères. Mmh. C'est là qu'on voit que la notion de fraternité et celle qui nous occupe ce matin sont évidemment assez proches. Et puis, il faut considérer les manuels, en particulier les manuels de Lavis, qu'il a publié sous son nom ou sous le pseudonyme de Laloi, pour un livre d'instruction morale et civique, c'est une question qui est assez actuelle d'ailleurs. Il dit « Aimez la France, c'est votre mère, vers elle doit tendre le vif élan de votre âme. C'est la terre qui vous a vu naître, là ont vécu vos aïeux, là ils ont souffert, sous cette terre repose leur cendre. » La mère est là qui veille à cette fidélité, à cette continuité.
C'est ce qu'il dit. Et en même temps, il faut se rappeler que la France, donc, de la vis n'est pas messianique ou compassionnelle comme celle de Michelet. Elle n'est pas positiviste au sens d'Auguste Comte, un petit peu comme dans le livre Le Tour de la France par deux enfants. La France de la vis n'est pas un idéal à atteindre. Elle correspond à une histoire. C'est la meilleure des patries qui porte le plus haut les valeurs de la civilisation.
Du côté des républicains, est-ce qu'on trouve ces métaphores maternelles guerres chez Jaurès ou chez Allemagne, chez Paul Brousse, mais assez souvent sous la plume des socialistes qui se présentent comme des militants socialistes, qui se présentent comme fils de la Révolution française et qui ne peuvent, disent-ils, je cite un article de 1879, qu'ils ne peuvent qu'aimer cette mère émancipatrice, cette révolution de justice et d'égalité qui prit date en août 1789. Cette mère émancipatrice.
C'est ce que répètent continuellement tous les républicains, de Ferry jusqu'à 1914, on peut dire ça comme ça. C'est cette notion d'émancipation par l'éducation qui est vraiment essentielle.
Évidemment, l'image de maternelle se retrouve pendant la Grande Guerre. Ça dépasse un peu les limites chronologiques de votre livre, mais on va trouver en particulier dans l'immense ensemble des monuments aux morts qu'Antoine Prou a étudié, que Raymond Depardon a largement photographié, on retrouve beaucoup cette image de la mère, on retrouve beaucoup ces piétas, la mère avec un enfant qui est le soldat dans ses bras. Permanence, non, Brigitte Demeure.
Ah oui, c'est une permanence qui vient des fonds des âges, en fait. Hein. Cette piéta, la Vierge avec son fils mourant, le fils en tant que victime de la méchanceté des hommes.
Alors, au moment de finir cette conversation sur la figure maternelle pendant tout le 19e siècle, alors j'ai le goût de vous demander, pour finir, si cette figure maternelle continue de prospérer ici ou là dans la vie culturelle, sociale, politique de la France. Vous l'apercevez quelque part ?
Je l'aperçois sous la figure d'une dame qui affirme vouloir protéger tous les Français et qui, dans certaines mises en scène sur Internet, dans certaines vidéos, affirme dire que si elle ne faisait pas de politique, elle s'occuperait uniquement de ses chats. Et on la voit chez elle avec ses petits chats. Et pour moi, c'est une mise en scène métaphorique où on voit cette personne qui est complètement inoffensive apparemment et qui s'occupe si bien de ses petits chats comme elle pourrait très bien s'occuper des Français à la prochaine présidentielle.
Chacun lui donnera un nom peut-être ?
Oui, bien sûr, c'est Marine Le Pen.
Eh bien, je ne savais pas qu'à la fin de cette émission que nous avons consacrée à la figure maternelle comme métaphore, nous terminerions de cette façon, mais c'était votre liberté. Je pense que chacun aura l'occasion d'y réfléchir. Merci beaucoup, Brigitte Demeure. Merci. Votre livre s'appelle « La figure maternelle dans la vie politique française, 1789-1914 », avec une préface suggestive de Françoise Thébault, grande historienne du féministe, mais qui évidemment est frappée comme vous par le contraste entre cet hommage à la mère symbolique et la situation faite au XIXe siècle, en gros, aux femmes dans la société. Ce livre a été publié par les éditions universitaires d'Avignon. C'est là que l'on vous a attribué le titre très recherché de docteur en histoire, n'est-ce pas, je ne me trompe pas ?
Merci beaucoup, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité.
Je voudrais également rendre hommage aux ouvrages de Maurice Agulon, dont nous avons entendu la voix très autorisée, en particulier son grand livre consacré à Marianne, « Marianne au pouvoir, l'imagerie et la symbolique républicaine de 1880 à 1914 », paru chez Flammarion en 1989. Il y a aussi un petit volume de la collection « Découverte » qui est dû à Pierre Bonte. Vous trouverez les références des documents sonores que nous avons utilisés sur notre site, le site de Concordance des temps, qui vous est désormais familier. Vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux et réalisée par Vincent Abouchard, avec à la prise de son Frédéric Cairou, avec à la discothèque Célian Guillemard et Véronique Jolivet pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Thank you.
France Culture présente Vers un pays lointain, dialogue sur l'Antiquité. Un voyage inspirant dans le passé pour découvrir les richesses du temps et mieux comprendre notre présent.